Écoutez aujourd'hui une émission présentée par le pasteur Elios Mikkel. Aujourd'hui, larmes et consolations.
Chères auditrices, chers auditeurs, que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Merci pour votre fidélité à l'écoute de FM Évangile 66. Je suis reconnaissant à tous ceux et celles qui, après nous avoir entendus, nous disent que l'émission leur a fait du bien et quelquefois, le sujet abordé répondait à une question en suspens. Que le Seigneur soit béni pour cela. Quand nous regardons autour de nous, nous voyons de grandes souffrances et les images dont nous abreuvent les télévisions mettent le focus sur des situations tragiques, il faudrait dire inhumaines, car provoquées par la cruauté des hommes. Sans omettre les victimes de catastrophes naturelles qui, nous le constatons, se multiplient avec le dérèglement climatique. Peut-être bien-aimé, toi qui écoutes en ce moment, tu es concerné directement, car ton quotidien est fait de larmes et de gémissements. Nous avons une parole de réconfort pour toi, que tu sois croyant ou non. Ce jour, nous parlerons de larmes, de souffrances, mais aussi de consolation. Et s'il existe des outils pour évaluer la température, tel le thermomètre, ou le tensiomètre pour la pression du sang dans les artères, etc., il n'y a aucun outil pour mesurer la souffrance que nous subissons et endurons. Au-delà d'un certain seuil, nous ne pouvons plus tenir, d'où un grand désespoir et parfois des actes désespérés. On nous a fait le reproche d'évoquer ces choses en nous disant que nous devrions être plus gais dans nos propos. Soit, parler de consolation, c'est d'abord parler de drame, de souffrance, d'injustice et des larmes qu'ils génèrent. Mais ensuite, c'est évoquer le réconfort, la compassion, l'amour du prochain. Heureusement, ici et là, des hommes et des femmes de bonne volonté tendent une main secourable aux blessés du chemin, apportant comme un rayon de soleil dans le quotidien des affligés mentionnés. Mais hélas, de plus en plus, l'indifférence répond à ces situations de détresse. Est-ce par pur égoïsme? Ou bien, le refus de regarder ces situations et toutes ces larmes, le refus vient-il de la peur d'être atteint à son tour et entraîné dans cette voie que l'on ne devrait même pas souhaiter à son pire ennemi? Quelqu'un a dit, je cite, « Une visite, cela fait toujours plaisir. Si ce n'est pas en arrivant, c'est en partant. » Que signifie une telle parole? Tout simplement que certains ne sont que des consolateurs fâcheux. Au lieu de vous apporter du réconfort, ils vous accablent. Alors que vous êtes épuisé au fond du lit de l'hôpital, eux sont guillerets et bavards. Mais ils sont intarissables sur leurs petites douleurs. C'est interminable. Et quand ils partent, vous êtes épuisé. Bien-aimé, le besoin de consolation est grand, aussi grand que la souffrance à laquelle ce besoin est confronté. Régulièrement, nous apprenons des drames, frappant ici et là des familles touchées par des faits divers tragiques. Une famille est décimée dans un accident de la route ou une catastrophe aérienne. Parfois, c'est un acte de violence aveugle ou un attentat terroriste qui sème la mort. certains avis de décès, sont libellés en ces termes, je cite, « un tel, ravi à l'affection des siens dans la force de l'âge, par une maladie fulgurante, etc. » Confrontés à de tels événements qui provoquent tant de grandes souffrances, nous sommes bouleversés. Que dire à ceux qui sont ainsi affligés? L'apôtre Paul nous donne cette piste, je cite, « Pleurez avec ceux qui pleurent ». Lettre aux Romains, chapitre 12, verset 15. Compatir, c'est souffrir avec, un peu comme être solidaire de la douleur qui serre le cœur et qui pose une chape de tristesse sur mon prochain. Le livre de Job nous présente une situation tragique à l'extrême. Dans un premier temps, Job perd tous ses biens. Ses troupeaux sont décimés par des pillards ou la foudre. Ses serviteurs sont tués, à l'exception d'un seul à chaque drame. Celui-ci vient annoncer à Job la mauvaise nouvelle. Et, tel un roulement de tambour, l'Écriture nous dit, je cite, « Il n'a pas fini de parler que notre arrive avec une autre mauvaise nouvelle. » Et le quatrième messager apporte une intensité supplémentaire à la douleur déjà extrême de Job. Outre ses troupeaux et les serviteurs qui s'en occupaient, Job apprend qu'il est privé de tous ses enfants réunis dans la maison de l'aîné. Un ouragan a heurté violemment le bâtiment qui s'est écroulé, provoquant la mort de tous les occupants, à l'exception du serviteur porteur de la terrible nouvelle. Quel choc! Lorsqu'un homme ou une femme perd son conjoint, on parle de veuf ou de veuve. Lorsqu'un enfant perd ses parents, on parle d'orphelin ou d'orpheline. Mais lorsque des parents perdent un ou plusieurs enfants, il n'y a pas de mots pour traduire la situation. C'est dire si la souffrance est extrême et anormale. Job accuse le coup, prend le deuil et prononce des paroles inhabituelles qui nous sidèrent. Je cite, « C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Et l'Écriture précise, dans tout cela, Job ne pécha pas, il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. D'autres versions disent, je cite, « rien d'inconvenant ou rien d'injuste ». Mais cela ne s'arrête pas là. Quelque temps plus tard, Job est atteint par un ulcère purulent, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Alors, il s'assoit au milieu du tas des cendres et ramasse un débris de poterie pour se gratter. Sa femme lui dit « Tu persistes à rester irréprochable, mais tu ferais mieux de maudire Dieu et d'en mourir. » Certains prédicateurs, voulant souligner la profondeur des souffrances de Job, reprennent les propos de sa femme et déclarent, je les cite, « Pauvre Job, et en plus, il n'a pas eu le soutien de sa femme. Au contraire, elle l'a poussé à la révolte contre Dieu. » Permettez-moi de condamner de tels propos, car la femme de Job, comme son mari, n'a-t-elle pas été privée de tous ses enfants? Qui dira qu'une mère n'est pas affectée grandement? Elle les a portés de longs mois, ses enfants. La douleur parfois peut faire déraisonner. Je trouve injuste de l'accabler pour les propos que l'acuité de sa souffrance lui a fait prononcer. Écoutons ce que dit Anne, la future mère du prophète Samuel, lorsqu'elle répond au sacrificateur Élie qui la rudoie. Je cite, « Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » 1 Samuel chapitre 1 verset 16. Job, lui, en est conscient. Voici de quelle manière il répond à sa femme. Je cite. « Tu parles comme une femme privée de bon sens. Si nous acceptons de Dieu le bonheur, pourquoi refuserions-nous de lui le malheur ? Bien-aimé, je le redis, il n'existe pas d'instrument tel un thermomètre, un baromètre ou un autre appareil pour mesurer l'acuité de la souffrance. Certains ont réagi en hurlant de douleur et en criant, je cite, « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir à subir cela ?» Pour ce qui nous concerne, impossible de dire comment nous aurions réagi si nous avions été affligés de la sorte. Tant que l'on ne vit pas ces souffrances, nous ne connaissons pas notre réaction. Reconnaissons simplement le réel besoin de consolation de ceux qui sont ainsi atteints. Et que dire à ceux qui sont ainsi affligés ? Quand on n'a pas de mots, quand l'ampleur de la douleur nous laisse sans voix, ne disons rien. Soyons simplement présents et pleurons avec ceux qui pleurent. C'est ce que trois amis de Job ont cherché à faire. Voici ce que l'Écriture nous dit les concernant. Je cite, « Trois amis de Job apprirent les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils vinrent de chez eux et se mirent d'accord pour lui manifester leur sympathie et le réconforter. Et en le regardant de loin, ils le trouvèrent méconnaissable. Alors ils éclatèrent en sanglots. Ils déchirèrent leurs manteaux et se répandirent de la poussière sur la tête. Puis ils restèrent assis à terre avec Job pendant 7 jours et 7 nuits, sans rien lui dire, tant sa souffrance leur apparaissait grande. Ils sont restés 7 jours sans mot dire, sans dire un mot. J'ai constaté à maintes reprises que notre présence fait du bien, sans rien dire. Simplement en écoutant. Les affligés ont beaucoup parlé, exprimé leur douleur. En un mot, pardonnez-moi l'expression, ont vidé leur sac. Et par la suite de déclarer, je cite, « Votre visite m'a fait beaucoup de bien. » Sans parole, une simple présence. Les amis de Job ont fini par rompre le silence et ont voulu expliquer l'inexplicable. Un proverbe de Salomon affirme ceci, je cite, « Qui parle trop cause forcément du tort. Il est plus prudent de savoir tenir sa langue. » Proverbe chapitre 10, verset 19, Bible français courant. Par leurs paroles, les amis de Job n'ont fait qu'aggraver sa souffrance, de sorte qu'exaspéré, il les qualifiera de piètre consolateur. Certaines versions disent, je cite, consolateur fâcheux, pénible ou désolant. Job chapitre 16 verset 2. Et Job poursuit avec ces mots, je cite, quand verra-t-on la fin de ces paroles creuses ? Dieu lui-même désapprouvera les propos tenus par les trois amis de Job. Par contre, c'est un regard bien différent que Dieu va porter sur les répliques de Job aux insinuations de ses amis. Car en filigrane de leurs paroles, ils ont laissé sous-entendre que si un tel malheur a frappé Job, c'est bien parce qu'il a gravement péché, gravement offensé Dieu. Or, il n'en est rien. Tout au contraire. Une réplique de Job m'a interpellé, je la cite, chapitre 9, verset 32-33. « Dieu n'est pas un homme comme moi, pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Pour poser la main sur l'homme, il faut être de nature divine. Bien-aimé, ce médiateur existe. » Je lis 1 Timothée chapitre 2, verset 5. « En effet, il y a un seul Dieu, et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Oui, Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, le seul ayant la double nature, Dieu à l'égal du Père, de toute éternité, et ne formant qu'un avec lui. Il s'est volontairement abaissé au rang de simple homme, puis de serviteur, et en mourant, abaissé au rang de malfaiteur. Je lis Philippiens chapitre 2, verset 5, Bible français courant. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme un homme. Il a choisi de vivre dans l'humanité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort. La mort sur une croix. En citant la souffrance de Job et la manière avec laquelle il a vécu d'une part les tragiques événements qui l'ont frappé et d'autre part en contestant les paroles accablantes de ses pseudo-consolateurs, l'apôtre Jacques a écrit ceci. Vous avez entendu parler de la longue patience de Job et vous savez ce que le Seigneur lui a accordé à la fin. En effet, le Seigneur est plein de compassion et de bienveillance. Jacques chapitre 5, verset 11, Bible français courant. Oui, bien-aimé, le Seigneur est plein de compassion et de bienveillance. Et il veut apporter à tous ceux qui souffrent une réelle consolation. Pour apaiser les plaies qui meurtrissent notre corps, nous avons recours à différents baumes qui désinfectent et calment la douleur. Le Seigneur dispose du baume qui guérit les cœurs brisés. Le parcours de Joseph, fils de Jacob, avant-dernier né d'une fratrie de 12 garçons, nous en donne un exemple. Jalousé par ses frères, il se retrouve au fond d'une citerne, dans une profonde angoisse, car il n'a pour seule perspective que la mort. Il en réchappe grâce au remords de l'un de ses frères, mais est vendu pour servir d'esclave en Égypte. Là, injustement accusé par la femme de son maître, il se retrouve au fond d'une prison où il va moisir plusieurs années. Mais Dieu ne l'oublie pas et le place à la tête de l'Égypte aux côtés de Pharaon. Et voici, Joseph reçoit deux fils. Alors il nomme le premier Manassé, car, dit-il, je cite, « Dieu m'a permis d'oublier toutes mes souffrances et ma séparation d'avec les miens. » Genèse 41, verset, chapitre 41, verset 51, Bible français courant. Ainsi, chaque fois qu'il voit son fils Manassé, Joseph a devant lui le témoignage de la consolation que le Seigneur lui a accordée. Un vrai baume sur son cœur. Quand il dit « Dieu m'a permis d'oublier », cela ne signifie pas que les injustices et les souffrances occasionnées ont été effacées de sa mémoire. Non, cela signifie que son âme est apaisée. Quand ses frères viennent en Égypte, il les reconnaît. Et lors des retrouvailles, il leur dit, je cite, « C'est moi, Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Ne vous tourmentez pas et ne vous faites pas de reproches pour m'avoir vendu ainsi. C'est Dieu qui m'a envoyé ici à l'avance pour que je puisse vous sauver la vie. » Bien-aimé, le Seigneur et sa parole sont pour nous la source de toute consolation, une consolation qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer et qui nous rend capables, à notre tour, de consoler efficacement dans la limite de ce qui est humain. C'est ce que l'apôtre Paul écrit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Je cite « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Il nous console dans toutes nos détresses pour nous rendre capables de consoler tous ceux qui sont en détresse par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu. Oui, quand on a souffert soi-même, quand on est passé par le creuset de l'épreuve, on peut mieux comprendre les autres. C'est ce texte de l'Écriture que le pasteur Moïse Lormier m'avait écrit en l'an 2004, lors du décès de mon épouse, âgée de 52 ans, pour me témoigner de son affection. Et il savait de quoi il parlait, puisque lui-même, bien des années auparavant, avait perdu son épouse, âgée de 36 ans, laissant plusieurs enfants, certains en bas âge. Oui, quand on a souffert, quand on y est passé, on sait de quoi on parle et on comprend la peine des autres. Jésus a, pendant un temps, partagé notre condition humaine. Il nous comprend parfaitement. Il a subi la haine des religieux dont il dénonçait l'hypocrisie. Il a connu l'ingratitude des foules auxquelles il apportait un secours. Il a vécu la trahison et l'abandon de ses disciples les plus proches. Et en mourant sur la croix, précisons-le, en faisant don de sa vie, il a subi, plus encore que les souffrances physiques de la crucifixion et les souffrances morales que pouvaient provoquer les moqueries et les insultes de ses détracteurs, il a, je le répète, subi volontairement une souffrance spirituelle dont nous mesurons mal l'intensité, mais nous pouvons en comprendre la portée. Peu de temps avant d'expirer, Jésus crie d'une voix forte, je cite, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu chapitre 27, verset 46. Cette rupture est la souffrance la plus grave que le Christ a éprouvée. La communion qui existe de toute éternité avec le Père et qui a permis à Jésus de dire « Moi et le Père, nous sommes un » alors qu'il est dans sa vie terrestre, dans une chair semblable à la nôtre. Cette communion est rompue. Pourquoi ? Parce qu'à cet instant précis, Jésus prend sur lui nos péchés pour en faire l'expiation. Christ est identifié au péché. Le Père détourne son regard. Comme le souligne le prophète Ésaïe, le châtiment qui nous donne la paix tombe sur lui. Cela pour qu'aujourd'hui, bien-aimé, si ce n'est déjà fait, tu puisses être réconcilié avec Dieu. En faisant appel au nom du Seigneur Jésus, tu seras sauvé.
Vers qui se tournait quand la source des larmes est arrivée. Vers qui se tournait quand la mort semble plus douce que la vie. quand son âme du fond du néant ne peut s'échapper, quand on ne sait plus que soupirer, quand la source des larmes est tarie, quand la source des larmes est tarie.
Juste deux mots à propos de ce que Job a qualifié de piètre consolateur ou consolateur fâcheux selon les versions. Comme quelqu'un l'expliquait d'une manière imagée, je cite, quand tu es en train de te débattre, parce que les vagues te submergent et que tu n'arrives pas à surnager, ils arrivent et t'enfoncent la tête sous l'eau. Les paroles du consolateur fâcheux accablent. Il en existe encore aujourd'hui. J'en ai rencontré. Ils disent, je cite, « Ce n'est pas chrétien de pleurer. » Pourtant, Jésus a pleuré. Jésus a pleuré devant le tombeau de son ami Lazare, tout en sachant qu'il va le rendre à la vie. Pleurer, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est l'expression d'une émotion, d'un sentiment. Les larmes de Jésus ont suscité le commentaire suivant, voyez comme il l'aimait. C'est tout à fait naturel de pleurer et bienfaisant, car les larmes permettent d'extérioriser une émotion, une souffrance. Comme cela a déjà été dit, je cite, pleurer permet de libérer deux types d'hormones qui fonctionnent comme des anesthésiens naturels et qui ont le pouvoir de soulager la douleur. Quant aux larmes, elle nous aide à éliminer les toxines qui s'accumulent dans notre organisme à cause du stress. Autre méfait provoqué par les paroles des consolateurs fâcheux. Entretenir dans l'illusion. Cela a déjà eu lieu du temps du prophète Ézéchiel. Par leurs paroles, ils créent une fausse sécurité, une illusion trompeuse. Je lis Ézéchiel chapitre 13 verset 10, Bible Second 21. Ils égarent mon peuple en affirmant que tout va bien, alors que rien ne va. Mon peuple construit un muret et eux, ils le couvrent de plâtre. Annonce à ceux qui le couvrent de plâtre qu'il s'écroulera quand une pluie torrentielle surviendra. La parole de Dieu fait du bien, parce qu'elle nous dit la vérité, parce qu'elle est la vérité. Quand elle dénonce notre péché, c'est pour nous amener au salut et à la vie éternelle. Dieu voulant, le jeudi 16 novembre à 10h, en direct, sur l'antenne de FM Évangile 66, j'aborderai le sujet du salut sous forme d'étude biblique. Le titre de l'émission sera « À propos du salut », le jeudi 16 novembre à 10h. Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire, afin que, grâce à la patience et à la consolation qu'elle nous apporte, nous possédions l'espérance. Avec l'automne et son cortège de feuilles mortes, arrivent ces jours qui remplissent les cimetières, en particulier le 1er novembre, jour de la Toussaint, ou le 2 novembre, jour des défunts. Temps particulier, consacré au recueillement et aux souvenirs qui parfois ravivent les souffrances occasionnées au moment du deuil. Le temps du deuil, la perte d'un ou plusieurs êtres chers est un temps de larmes et de douleurs. Rappelons-nous que Jésus a pleuré devant le tombeau de son ami Lazare, le frère de Marthe et de Marie. La mort est un ennemi. Un jour, elle sera anéantie. Elle n'est pas une fin en soi, mais un passage de la condition temporelle à celle de l'éternité. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 8, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Cela se produira lors de la résurrection. Voici ce que l'apôtre écrit aux chrétiens de Thessalonique. Je cite chapitre 4. Frères, nous désirons que vous connaissiez la vérité au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas tristes comme les autres, ceux qui n'ont pas d'espérance. Et il terminera son enseignement par ces mots. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Quelles sont ces paroles? Je lis 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 17. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, Paul rappelle la résurrection de Christ et la garantie de notre espérance, notre propre résurrection où, versets 50 à 54, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ainsi, pour ceux qui meurent, le corps passe par un retour à la poussière, tandis que ceux qui seront vivants lors de l'enlèvement de l'Église recevront instantanément le corps glorifié, semblable à celui de Jésus ressuscité. Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21. Lorsque nous dormons, nous perdons la notion de temps, et c'est au réveil, grâce soit à la pendule ou à la lumière du jour, que nous pouvons évaluer le temps écoulé. Pendant que nous sommes dans la vie actuelle, nous nous réveillons dans ce corps de chair que nous habitons, avec l'usure du poids des ans. Si nous devons passer par la mort, alors nous nous réveillerons avec le corps glorifié, susmentionné, dans l'instant qui suit, quelle que soit la durée entre notre décès et la résurrection. Comme le précise 2 Corinthiens chapitre 5, verset 8, « Quittez ce corps et demeurez auprès du Seigneur ». La Belle au bois dormant, dans le conte de Charles Perrault, s'est endormie, comme l'on sait, et 100 ans se sont écoulés avant que le baiser du prince ne vienne la réveiller. Lorsqu'un homme rend son dernier souffle, quand il s'endort du sommeil éternel, il entre dans l'éternité, et la notion de temps est tout autre. Les chrétiens ont une espérance vivante. Paul écrit aux Philippiens, chapitre 1, versets 21 à 24, « Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. » Cela traduit une grande sérénité face à la mort. Cependant, il n'y a pas ici une quelconque incitation au suicide, c'est-à-dire une tentation d'avancer le temps du départ. Cette espérance vivante explique pourquoi, à travers les siècles, les disciples de Jésus n'ont jamais été dans l'abattement lors de persécutions qu'ils ont subies ou qu'ils subissent encore dans certains pays. Les larmes sont légitimes. Nous pleurons quand nous sommes dans l'affliction et nous pleurons aussi avec ceux qui ont besoin de consolation en compatissant et en nous tenant à leur côté. Bien-aimés, combien douces seront les retrouvailles lors du divin rendez-vous. Bien-aimés, que le Seigneur mette sur votre corps, votre cœur, son baume consolateur, qu'il remplisse votre cœur de sa paix. En un mot, que le Seigneur vous bénisse. Je vous quitte en vous lisant les paroles d'un vieux cantique. « Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. tout sur mon chemin rayonne, depuis qu'il conduit mes pas. Un chrétien je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, vienne apporter dans mon cœur. Sa puissance souveraine maintenant règne sur moi, du péché brise la chaîne, me rend vainqueur par la foi. Et tranquillement j'avance, m'appuyant sur mon Sauveur. Son adorable présence me donne le vrai bonheur. Amen.